10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est parti, vous le savez, la matinale, c'est les informés. Je parle pas de la matinale, c'est les informés de 10h à 11h. Ici même que ça se passe au quotidiennement pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie infiniment. Alors, qu'est-ce que je vous ai bien concocté ce matin? Eh bien, plusieurs choses d'abord. Madame l'eurodéputée, madame Salima Yenbou, qui est avec nous ici sur ce plateau même, viendra, elle est notre invitée ce matin, reviendra sur son bilan, notamment sur les jeunes méditerranéens, mais pas que, elle reviendra aussi parler d'autres sujets, la situation à Gaza qui la préoccupe. Et aussi, également, vous savez, nous parlerons avec elle. Ils viennent du même quartier, figurez-vous. Ça mérite une petite clochette, ça. C'est Aya Nakamura avec la députée. C'est pas mal, ça, quand même. Hein. Ça fait ce clac, comme disent les jeunes. On en parlera. Ensuite, les débatteurs influenceurs. Ils sont quatre, évidemment, bien sûr, avec des points de vue très différents pour confronter leurs points de vue sur les sujets qui ont retenu notre attention. On viendra sur, d'abord, Moscou, Poutine, qui alerte Poutine, tout simplement, avec l'attentat qui s'est déroulé. Et il insiste et il confirme, mais il ne lâche pas l'affaire, Poutine. Il affirme que l'attaque a été commanditée par l'Ukraine. C'est terrible, ça, quand même, d'entendre ça. Comment il peut avancer de tels propos? Nous reviendrons aussi sur, l'opération XXL. Vous savez, c'est l'opération anti-drogue. Finalement, cette opération, est-ce qu'elle fonctionne? C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'elle est en train, Marseille est en train de perdre la guerre contre le trafic? Grand point d'interrogation, nous en parlerons ici. Les Européennes, ça y est, ça bat pas son plein, mais ça commence. Un sujet, c'est la guéguerre chez les Républicains. Ouais, la petite guéguerre, mais bon, on a l'impression que c'est toujours la guerre partout, c'est pas que chez les Républicains. Dès qu'on rentre en campagne, ça y est, ils oublient qu'ils sont des alliés, etc. La claousie clochette, c'est parti. Aya Nakamura, justement, vous savez quoi, qui continue. Ah là 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 là. Figurez-vous qu'il y a eu un bal antiraciste devant le siège RN, mais depuis ce bal, le bal antiraciste continue à se déferler sur les réseaux sociaux. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on nous prépare à une espèce de France qui est en train de basculer vers un nouveau monde? La vérité, je vous jure, je me pose la question. Vous savez, ça, il y a quelque chose de sous-jacent. Là, clairement, avec cette histoire de balle antiraciste, on est en train de... Moi, je vous le dis clairement, on est en train de basculer. Basculer vers quoi? C'est la question, évidemment, qu'on se pose tous. 0153483000, vous le savez, c'est le seul numéro où vous pouvez nous joindre, vous auditeurs, partout en France. Vous êtes prioritaire, vous nous appelez et vous passez, évidemment, quand vous voulez. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, mais vous le savez, en toute liberté d'expression.
10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et c'est parti pour l'interview avec Madame Salima Yenbou. Bonjour Madame Salima Yenbou, bonjour Madame l'eurodéputée, comment ça va?
Très bien, bonjour à toutes et à tous.
Ah, le micro est dû fermer. À mon avis, je pense qu'il y a un petit souci avec le micro tout de suite. Redis bonjour. Voilà, c'est les Russes. Jamais tout de suite, là, ça y est, à l'attaque.
C'est bon.
Comment ça va? Vous allez bien?
Très bien, merci.
Ça va, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Mais merci à vous de m'accueillir.
Ça fait plaisir. Bah, écoutez, c'est nous qui vous remercions. Alors, madame l'eurodéputée, d'abord, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, parce que c'est vrai que la campagne, ça y est, elle est lancée. Ça tire dans tous les sens. Vous, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est la question que je vous pose.
Alors, moi ça m'inspire que. On a un bilan, donc de ce côté-là, on a fait le travail au
Renew,
on a fait le travail au Parlement européen, on a un bilan à défendre, donc de ce côté-là, je suis plutôt sereine. Ensuite, la montée des extrêmes, forcément l'extrême droite en particulier, m'inquiète beaucoup, puisque ce qu'on envoie comme message, c'est ne faites rien et on vote pour vous.
Ne faites rien, on vote pour vous. C'est inquiétant.
Oui.
Ouais. Vous voyez des solutions?
Les solutions, c'est ce que l'on fait tous, en tout cas tous les partis que moi j'estime être républicains, c'est d'aller sur le terrain au quotidien pour montrer, pour défendre notre bilan chacun dans son groupe politique et montrer que nous on travaille et qu'on a avancé sur l'Europe.
Il y a peut-être une raison, je vous pose la question, il y a peut-être une des raisons justement sur le fait que le RN est rassembleur de plus en plus. Est-ce que tout simplement, les autres partis n'ont pas déserté, y compris Renew, n'ont pas déserté certains sujets?
Non, je suis pas d'accord.
Ou tout simplement, ils ne se sont pas emparés de certains sujets qui concernent les Français?
Non, je ne suis pas d'accord du tout, parce que ce sur quoi surfe le RN, c'est l'immigration. Et justement, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, avec le pacte asile-migration, on s'en est saisi, justement, pour couper un peu l'herbe sous le pied. Mais eux ne votent pas ces textes, notamment au niveau européen, parce que c'est leur fonds de commerce. si on vote un texte, on régule les migrations, ils n'auront plus rien à dire. Et ça, le travail, on l'a fait. Je crois que la problématique, elle est sur la communication. Beaucoup. Le RN a communiqué sur du vent, parce qu'ils ont fait du vent. Donc ils ont communiqué sur du vent. Ils attisent les haines, ils utilisent les inquiétudes des jeunes notamment, ils les utilisent avec des fake news. Et on sait très bien, là, vous allez parler de la Russie tout à l'heure, il y a aussi une corrélation avec la Russie qui est certaine. Et aujourd'hui sur le terrain, on le voit bien, on nous raconte n'importe quoi. Quand on discute avec, j'étais sur des marchés.
C'est quoi les échanges que vous avez avec justement la population?
En général, ils disent que le RN travaille et que eux travaillent pour eux. Donc quand on leur demande, mais dites-nous un dossier sur lequel ils ont avancé, expliquez-nous. Alors ils nous disent, oui, mais ils défendent les agriculteurs. Oui, pardon, mais en fait, ils n'ont pas voté. Ils ont voté le cadre, mais pas le budget. Donc si on vote un cadre sans budget, aujourd'hui, si on avait écouté le RN, si le RN avait gagné au niveau européen, les agriculteurs de toute l'Europe n'auraient pas un rond. C'est quand même plus de 40% du budget européen. Donc il y a vraiment de la fake news comme ça, et ils sont très très présents sur TikTok. Là où nous, par principe, on a vu les effets négatifs de TikTok, on les connaît sur la jeunesse, donc on essaie d'être un peu cohérent et on n'y va pas. Moi, je n'ai pas de compte TikTok parce que justement, je sais les dégâts que ça va faire sur les gamins. Donc, et c'est un vrai dilemme. Est-ce que j'y vais pour pouvoir les attirer, ou est-ce que je reste sur mon principe de dire, j'ai des enfants?
Qu'on a plutôt tendance à se dire, il faut y aller pour
je sais pas.
Occuper
je pas
l'espace sûre. Et s'adresser aux jeunes, surtout. Ouais. Parce que comment vous voulez vous adresser aux jeunes s'ils sont présents sur TikTok?
Ça a l'air très facile, parce que moi j'étais enseignante avant ça. Et donc la protection des jeunes, ça me connaît. Mais c'est un vrai dilemme que je me pose, et je ne suis pas sûre que la solution, ou en tout cas la réponse, soit aussi facile que celle que vous donnez. C'est pas aussi simple que ça.
Allez, on va parler, vous savez quoi, de votre bilan, justement. Parce qu'on arrive au terme d'un certain nombre de choses, justement, quand on parle de l'Europe. Et vous, notamment, je sais que vous avez porté les jeunes, vous savez, vous avez défendu les jeunes pendant plusieurs années, 5 ans précisément, méditerranéen. Parlons-en, justement. Si on peut rappeler le contexte.
Alors, du coup, c'est jeunesse et Méditerranée.
C'est ça, jeunesse et Méditerranée.
Ouais. Voilà. Donc la jeunesse, je l'ai défendue dès que je suis arrivée au Parlement européen. Comme vous le savez, moi j'ai grandi à Aulnay 3000. Et toute ma vie, depuis toujours, je travaille pour l'émancipation de ceux qui sont les plus éloignés des opportunités. Quand je suis arrivée à l'Europe, j'ai vu Erasmus, par exemple. Erasmus, c'est un super programme de mobilité, mais qui est élitiste, il faut le dire clairement, élitiste. Donc, dès le départ, en 2019, j'ai travaillé, négocié, pour que ce programme soit plus inclusif et qu'il puisse bénéficier à ceux qui sont les plus éloignés des opportunités européennes, et notamment par le biais des lycées professionnels. Donc j'ai eu un fort appui là-dessus. Et pour faire le lien, et faire le lien aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à TikTok, moi j'ai pris le parti d'aller sur le terrain. Et pendant 5 ans, je suis allée dans les lycées professionnels, j'ai échangé sur mon parcours pour envoyer un message à ces gamins et leur dire, je viens des mêmes quartiers que vous. Aujourd'hui je suis députée européenne, je ne l'aurais jamais cru, je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis que c'est très dur, c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres, mais c'est possible. Et c'est possible justement par ce qu'offre la France.
Oui,
exactement. Ils l'entendent. J'en ai même un qui m'a dit, je vais être président, moi, madame, pas député, ça ne m'intéresse pas.
Ah oui, il voit où,
J'ai adoré. J'ai adoré. D'ailleurs, j'ai pris un selfie avec lui, au cas où, un jour, il serait président. Et donc, il y a ce message. Et puis, ce que je leur dis aussi, c'est que, avec ma position et ma fonction, moi, ce que je veux, c'est que ce soit moins difficile pour eux. Je veux faciliter pour les autres.
Alors, quelles étaient les priorités, justement, de la programmation? Parce que quand on pense à Erasmus, c'est toute une stratégie d'enjeux, d'ailleurs, notamment, à la fois sur l'apprentissage, sur l'inclusion des territoires. C'est toutes ces questions que peuvent se poser, notamment, quand on pense à Erasmus. Quelle était cette priorité concernant la programmation?
Alors, sur la programmation, c'est déjà qu'elle existe, qu'il y ait des lignes prévues pour les lycées pro, ça n'existait pas. Il n'y avait pas, c'était Erasmus est ouvert à tous, sur papier, mais dans les faits, ça n'arrivait pas, l'information même n'arrivait pas jusqu'aux lycées professionnels ou aux associations, parce que les associations peuvent en bénéficier, les associations sportives aussi. Donc l'information n'arrivait pas, donc il y avait un enjeu d'information, donc c'était travailler là-dessus et ensuite faciliter. l'accès à ces programmes, et notamment en créant des consortiums. À partir du moment où on crée un consortium, les entités peuvent s'inscrire facilement. Donc il y a un travail qui est fait, et j'ai continué après que dans les textes, on ait réservé une somme importante pour les lycées professionnels, pour l'apprentissage, pour les associations. Une fois qu'on a eu fait ça, pour les universités aussi, hein, l'inclusion elle se fait aussi par les universités. Une fois qu'on a eu fait ça, moi j'ai travaillé avec l'agence française pour apporter mon expertise. J'étais proviseur de lycée professionnel, je viens des quartiers, voilà, j'ai une expertise là-dessus et j'ai pu leur apporter pour qu'on puisse avancer le plus vite possible. Il y a encore du travail à faire, mais on a énormément avancé. Les lycées professionnels se sont emparés massivement de ce programme Erasmus et il faut encore pousser. Aujourd'hui, il y a aussi un autre programme, et je m'adresse un peu à vos auditeurs, qui s'appelle Discover EU, qui est un programme que j'ai sauvé de la poubelle.
C'est un in extremis.
De la poubelle surtout, parce que tout le monde voulait le jeter en 2019. Et c'est un programme qui permet d'avoir des billets de train pour aller partout en Europe de 2 à 1 mois. Pas mal. L'année de ses 18 ans. Pas mal, avec une somme d'argent pour chaque jour, plus des opportunités dans chaque pays culturel, etc. Et ce programme, moi, quand je l'ai défendu, j'étais toute seule, la seule députée. Parce qu'on m'a dit, ouais, mais ils vont aller faire la fête à Marbella. Et moi, j'ai dit, et alors ? S'ils vont à Marbella, ils vont rencontrer d'autres jeunes d'autres pays, ils vont rencontrer une autre culture. C'est pas ça, justement, l'Europe ? C'est pas ça, devenir citoyen européen. Donc, on le garde.
C'est aussi des projets transnationaux.
Exactement. Et aujourd'hui, il a un succès incroyable. Donc, c'est là en mars. Vous pouvez candidater, les gamins peuvent candidater l'année de leurs 18 ans, en mars et en octobre.
L'appel est lancé, ça y est, voilà. L'appel est lancé. Donc effectivement, vous êtes en pleine période de candidature, si j'ai bien compris, madame l'eurodéputée.
Oui, aussi.
Madame Salima Yenbou, donc en ce moment même, ils peuvent y aller. Il y a une plateforme.
Oui, Discover.
Discover. Discover, allez-y.
Voilà,
tout simplement. Est-ce que vous allez continuer à développer Erasmus, justement, quand on pense aux apprentis ?
Alors, ce qu'on demande pour la prochaine, on a déjà commencé à demander, déjà, ce sont des fonds, le multiplier par 3. On a réussi à presque le multiplier par 2 pour ce mandat. Et pour le prochain, on demande des fonds pour tripler le budget d'Erasmus. Et puis, justement, pour pouvoir faire encore plus d'inclusion. Parce que savoir que l'inclusion, c'est pas juste l'accès, c'est tenir compte des revenus des familles. Et donc, il y a plus d'argent qui est donné pour les jeunes issus des quartiers populaires ou des zones rurales. Donc, voilà, l'inclusion, elle va jusque-là. On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse y aller. Ensuite, il y a le volet Méditerranée, si je peux aller dessus.
Rapidement, parce qu'on arrive au terme. Vous savez, ça va très, très vite. Ah oui, déjà, effectivement. Alors, je vous laisse. Allez-y, dites un mot sur la Méditerranée.
Allez, Méditerranée, l'idée, c'était, depuis 2019, c'est de pousser pour un changement de paradigme et construire enfin cette Méditerranée qui balbutie.
Qui s'affronte.
Qui s'affronte, mais qui balbutie surtout. Mais vraiment un espace méditerranéen, sud-nord, et faire de la mer une mer d'opportunité et pas une mer où des centaines de gamins viennent mourir. Et ce changement de paradigme au niveau européen, il est en train de se faire. J'ai martelé pendant 5 ans l'histoire d'égal à égal, de travailler d'égal à égal, d'arrêter de parler de développement avec la Méditerranée, mais aussi avec l'Afrique, mais de parler de partenariat, de travailler avec les sociétés civiles, de partir des besoins du terrain et pas d'apposer des projets comme ça qui n'ont pas d'intérêt pour les personnes sur le terrain. Ça commence à changer. On a un gros outil qui s'appelle le Global Gateway qui commence à se mettre en œuvre avec beaucoup d'argent. Et j'espère que, en tout cas, les personnes, les diasporas, on va dire diaspora, même si ce n'est pas trop le terme que j'aime, pourront avoir un rôle important parce que je pense qu'elles ont ce rôle de double culture qui leur permet d'une compréhension.
Donc un véritable
fine,
défi.
Ouais, qui vraiment permet une compréhension fine des deux côtés et qui peut créer les ponts, enfin ces ponts qu'on attend depuis des décennies. Cela dit, il faut des volontés de part et d'autre.
Un petit mot sur la situation à Gaza, vous savez qu'il empire chaque jour selon l'ONU. Alors Emmanuel Macron s'est longuement exprimé sur la question, sur la situation à Gaza. Vous dites quoi alors, madame l'eurodéputée, aujourd'hui, parce que effectivement, on a du mal à faire appliquer l'appel au cessez-le-feu aujourd'hui. Un cessez-le-feu, pardon.
Oui, c'est ça le souci. C'est la première urgence, c'est le cessez-le-feu et permettre les aides humanitaires, ouvrir tous les ports, les entrées terrestres surtout, où attendent des millions de camions, notamment à Rafah. L'urgence, elle est là. Et en politique, on a toujours un coup d'avant. On dit toujours qu'on a un coup enfin, on réfléchit au coup d'après. Et le coup d'après, c'est de stopper aussi la colonisation qui continue en Cisjordanie. Et c'est ce qu'a dit le président, comme Stéphane Séjourné. Il n'y aura pas de discussion là-dessus. C'est les frontières de 67 qui seront prises en compte. Donc, il faut cesser la colonisation. Et c'est ça, le coup d'après.
Je voudrais juste vous poser cette dernière question. Aya Nakamura, vous connaissez, puisque vous êtes issu de la même ville.
Oui, on est issu même du même quartier, le quartier des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Moi, je voudrais juste dire que...
On peut dire un mot. Vous ouais, déplorez, sûr, j'imagine, hein, évidemment, ce qui lui arrive.
Complètement.
Avec ce bal antiraciste.
Mon total soutien, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai écrit un rapport sur le racisme au niveau européen, où justement, je demandais à ce que des figures importantes comme ça puissent permettre aux jeunes de se projeter et se sentir pleinement européen ou pleinement français. C'est honteux, cette polémique autour de Aya Nakamura. Il faut persister. J'espère que ce sera elle qui représentera la France aux JO.
Le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui, Madame l'Eurodéputée, Madame Salima Yanbou?
Moi, je dirais ne rien lâcher. Voilà, quand j'avais 18 ans, j'aurais jamais cru, donc on lâche rien.
Ça tombe bien, c'est ce qu'on dit tous les jours ici. On ne lâche rien.
On ne lâche rien.
Madame l'Eurodéputée, Madame Salima Yanbou, merci.
Merci à vous.
Merci à vous et bon courage pour la suite.
Merci.
Effectivement, allez, on part qu'une pause et on se retrouve tout de suite après avec les débatteurs influenceurs sur les sujets qui nous concernent et le 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et c'est parti pour le face-à-face jingle.
Les informés. Le face-à-face,
vous savez, avec Philippe Nadjiboye, qui est le conseiller régional. Bonjour Philippe Nadjiboye,
comment ça va? Bonjour Adil, bonjour aux auditeurs et auditrices, ça va très très bien.
Co-porte-parole, il insiste, hein, il tient absolument, effectivement, de l'écologie au centre.
C'est ça, personne ne parle de nous.
Au centre, là, c'est vrai, là,
et on se porte très bien, écoute, on est crédité à 28-29, je crois.
28-29, c'est ça.
En maternelle, on n'est pas loin de 50 en maternelle, et 28-29 en primaire.
Bon, bah, c'est bien, écoutez, bravo en tout cas. Augustin Vargue, bonjour Augustin Vargue.
Oui, tout à fait, l'écologie au d'extrême droite.
Exactement, ça va?
Le pendant inversé de Philippe. Non, c'est je ça. Plaisante. Ouais. Entrepreneur, juste.
Un peu
pas mal.
Non.
Oui, de ce qu'elle est.
De ce qu'elle est. Ibouba, bon journaliste, comment ça va Ibouba?
Très très bien.
Ça va bien, tout va bien.
Un plaisir d'être là.
Bah écoutez,
il y a Philippe, il n'y a pas de problème, on va foutre le
classe.
Bordel.
On va foutre le bordel comme voilà. Il dit. On se calme, on se calme.
Ibouba,
l'élu de Charenton-le-Bon, il est avec nous, c'est Mickaël Sherman. Bonjour, ça va Mickaël?
Bonjour Adil, comment ça va?
Très bien.
Est-ce que je peux me permettre?
On est en retard,
Je sais, mais vraiment important.
Ah, tu peux pas te permettre, si. On est 10h25, cher ami.
Adil.
Si chacun me dit, je peux me permettre.
Adil,
vous savez quoi, je vous laisse.
Adil. Non, sujet sérieux, vraiment. Sujet sérieux. On a parlé de Gaza, on n'a pas parlé des otages. On a 3 otages français, toujours aux mains du Hamas. On a Ouadi Alomi, 49 ans, Ofer Calderon, 53 ans, et Orion Hernandez Radou, 32 ans. À l'époque, dans les journaux, à l'époque de Ingrid Betancourt, il y avait un décompte, on voyait le nombre de jours. Ça fait plus de 170 jours, je voulais avoir une pensée en début d'émission.
C'est dit.
Très voilà.
Merci Adil.
C'est dit tout de suite, allez, il faut qu'on en mette vraiment, je suis très très en retard. Attentat à Moscou, Vladimir Poutine qui affirme pour la première fois que l'attaque, et de toute façon la situation à Gaza et la situation sur le conflit israélo-palestine, c'est un sujet récurrent ici même. Allez, moi, ce qui m'interpelle, vous savez quoi, c'est que Vladimir Poutine qui affirme, qui insiste sur le fait que cet attentat, et ça vient de l'Ukraine. Comment on peut dire, évidemment, telle chose? Qui veut prendre le micro? Tiens, allez, Augustin Vargue.
Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, c'est ça, comme on dit. Donc tout vient de l'Ukraine, en fait.
C'est ça.
Tous les malheurs du monde entier viennent de l'Ukraine. Donc d'ailleurs, ils vont reprendre encore plus les bombardements. Donc je pense qu'il n'y a rien à voir avec l'Ukraine. Je pense que la Russie aussi paye, peut-être, de ce que je sais, Wagner en Afrique. Et je pense que ça, les islamistes sont pas forcément... sont pas forcément d'accord avec ce commencement de territorialité de Wagner en Afrique. Donc voilà. Après, c'est aussi un avertissement pour nous, parce que ça va peut-être arriver aussi. Hein. Mais que ça soit de l'Ukraine, ça me fait un peu rire quand même.
Philippe Ladjiboyaki. Alors.
Bah, écoutez, Adil, les services secrets américains, la CIA, a informé début mars d'un attentat probable au risque maximum sur le sol russe. Le FSB a dit, écoutez, c'est de l'ingérence et ça m'étonnerait que vous soyez mieux renseignés que nous. 15 jours après, il se passe ce qu'on a assisté. Ils quittent Moscou, les terroristes présumés, parce que...
En direction de l'Ukraine.
Alors, en direction, il y a 8000 kilomètres de frontière, donc forcément...
Beaucoup disent qu'ils ont essayé de partir. en Ukraine.
Alors, quand j'ai regardé la trajectoire, c'était plutôt la Biélorussie. Mais dès que tu quittes Moscou, de toute façon, tu vas vers l'Ukraine. Hein. Mais bon, quand t'es arrêté au bout de 20 km, t'étais en direction de rien du tout. Donc, qu'on arrête de se moquer de nous, que Vladimir Poutine arrête de se moquer de nous et qu'il passe à l'étape supérieure, comme ça on sera tous fixés et comme ça on passera tous à l'étape supérieure. Maintenant, ça suffit. Ils n'ont pas vu venir, ils n'ont pas préparé. On les a avertis, ils ont laissé faire. C'est une belle excuse pour pouvoir intensifier ces frappes.
Et Bouba ?
Ouais. Moi, je crois que ça sera le contraire. Ouais. À ma vision spontanée des choses, je crois qu'il faut essayer d'être un tout petit peu rationnel. C'est la guerre de la communication.
Avant tout.
Et aujourd'hui, je peux comprendre Poutine quand il peut emprunter ce verbatim qui est un tout petit peu saignant. Alors, il dit exactement que, donc, effectivement.
Ah bah c'est un discours de guerre. Hein.
Il n'a rien à dire d'autre. Mais on sait que, ipso facto, ce qu'il dit, ça ne tient pas. C'est sûr que c'était prévisible qu'il allait tout mettre donc, sur le dos de l'Ukraine. Ça, c'était quelque chose de prévisible.
Peut-être qu'il est derrière,
voilà,
c'est
exactement.
Possible.
Et ce qu'il faudra comprendre aussi, il faudra juste comprendre que Poutine est en guerre. Donc, en ce moment-là, donc, voilà, c'est la guerre de la com. On n'entendra du tout et du tout. Mais cela ne veut pas dire réellement que. Aujourd'hui, ce qui s'est passé effectivement, donc comment s'appelle un Russie est salutaire. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut quand même parce qu'on ne sait pas nous autres qui sommes là, on ne sait pas à quoi s'attendre aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, c'est regrettable. C'est pas ce qu'on souhaite pour le peuple russe. C'est pas non seulement ça ce qu'on souhaite aussi pour le peuple de l'Ukraine. Mais si c'était même ukrainien ce truc, mais alors c'est la guerre. Mon ami, donc à un certain moment donné, si l'Ukraine était capable de le faire avec tout ce qu'il a vu, avec tout ce que son peuple a subi, je crois que bon voilà, on peut pas sourire de cela, mais on comprendra justement que bon voilà, effectivement, donc ils ont fait aussi ce qu'ils doivent faire.
Oui, vous avez raison, c'est vrai, une guerre de communication, mais pas que là, on est quand même passé à un stade quand même un peu plus supérieur, c'est-à-dire que là...
Les Ukrainiens n'avaient aucun intérêt à faire ça, franchement, ça serait même suicidaire.
Et je crois qu'ils n'en sont même pas capables, en plus.
Et puis ils s'enferment aussi, le problème, c'est qu'on l'a vu pendant le Covid, Vladimir Poutine a un double parcours, c'est un ancien des services secrets qui a fait de la politique sur le tard, et en fait, on s'en rend compte, c'est qu'il est à la fois dans sa posture, où c'est un homme intelligent, il sait très bien ce qu'il dit. Je veux dire, dans la posture Est-Ouest et cette guerre froide de communication qu'on voit aussi aux États-Unis. Quand on voit le président américain parler de Poutine, on voit très bien qu'on est entre deux blocs maintenant. Et Vladimir Poutine prend des décisions, je pense, où il va trop vite. Et on voit un peu un mini rétro-pédalage. Quand il a dit, bon, finalement, c'est l'État islamique, mais... Donc je pense qu'il va un peu trop vite. Et voilà, après, on espère une paix, mais je pense que ça retarde les efforts de paix. Et voilà, on va falloir être patient et cette guerre va durer.
Allez, cette guerre va durer, effectivement. On va parler, vous savez quoi, d'une autre guerre, c'est celle des Européennes 2024. C'est un sujet que j'ai convoqué avec Eric Ciotti, indique l'eurodéputé Brice Hortefeux. Sauf que là, effectivement, vous savez quoi, les Républicains réfléchissent de plus en plus à la manière dont il faut qu'ils s'adressent, vous savez quoi, tout simplement aux électeurs de droite. Très compliqué, c'est ce qu'on appelle ces électeurs de droite égarés. Comment les capter ? Comment faire en sorte aujourd'hui les Républicains se sentent un peu perdus dans cette pas campagne, mais dans cette dynamique de comment dirais-je qu'est-ce qu'il y a, Philippe ?
Européenne. Je crois que les Républicains en assistent tout doucement. Et d'ailleurs, moi, je commencerai. Alors, en plus, j'ai plein d'amis chez les Républicains, donc ne m'en voulez pas pour faire ça. Mais un enterrement de première classe.
Tu les as enterrés.
Non, mais c'est ça. Mais
soit palliatif, plutôt.
Non, mais c'est pas ça.
Palliatif.
Tu as deux branches.
Vous êtes méchant, là, non ?
Non, mais tu as deux branches.
Moi, je suis moins méchant. Mais en soins palliatifs,
on y
va vers une mort.
Non, mais
ce que je veux dire,
ils avaient une chance à la présidentielle de ne pas faire ce qu'ils ont fait. Ils ont flingué leur meilleur atout, qui était Valérie Pécresse, qui partait sur une très bonne campagne et qui l'ont radicalisé d'une manière ciottiste à mort. Quand tu regardes Ciotti et tu regardes l'Assemblée nationale, je suis désolé, je vois aucune différence. Par contre, donc t'es pris entre deux blocs, les Républicains modérés, démocrates, qui se retrouvent forcément chez Horizon ou chez Darmanin, en tout cas chez Macron, forcément, et les conservateurs purs et durs, qui sont inquiets et qui entendent leurs dirigeants tenir le même discours que le Rassemblement National. Bah, ils sont orphelins, donc ils vont où ? Ils vont dans une nouvelle maison, ce qu'on appellerait la maison mère. Donc les Républicains vont tout doucement à la fragmentation. Et je voudrais dire quelque chose, alors c'est du off, mais on a tous eu le même constat. Au dernier congrès des maires de France, j'ai été au déjeuner. J'ai vu les députés du Rassemblement national du sud de la France, assis aux mêmes tables que les maires républicains, et en train de se taper la bavette, la rigolade, et se taper sur l'épaule. Donc les digues ont sauté. Et forcément, il va falloir qu'il fasse un choix plus ou moins rapidement.
Ceci après, dit, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que à l'Assemblée nationale, ouais, à Obistro, il y a toujours eu des transpartisans.
Je parle des maires des circonscriptions.
Non, mais vraiment. Après, les porosités sont faibles. Les digues sont en train effectivement de.
Et Marianne a été le premier à faire le pas.
Après, je pense que ce qui peut subsister aux Républicains, c'est quelle est leur différence entre ce que propose Renew aux européennes et ce que propose le RN, enfin ce que propose Renaissance. Oui, c'est ça.
C'est surtout ça, oui, c'est ça.
C'est qu'est-ce qui est marqueur chez eux ? Qu'est-ce qu'ils proposent de différent entre Macron et Bardella ?
Ouais. Michael Sherman ?
Le RN aujourd'hui et l'extrême droite plus globalement en Europe sont en pleine croissance. Ils n'ont pas de bilan à défendre, donc en fait c'est quelque part une guerre qui pas injuste,
pas de bilan,
mais
vrai,
qui est inégale. Ça veut dire que en gros ils ont le bon rôle, l'extrême droite, c'est taper et avoir le rôle d'opposition. Oui. Tout ce que vous avez fait c'est de la merde, excusez-moi de m'exprimer vulgairement. Et en gros Renew Europe, on a reçu 7 eurodéputés. Excusez-moi, par rapport à un RN qui fait des grandes déclarations et qui promet tout. Bah évidemment qu'elle paraît ennuyante, cette eurodéputée. Donc c'est ça le problème. Et pourtant, moi, je me fais
extrêmement
droite.
Il a droit à une clochette.
C'est sympa.
Il a droit
à une clochette. Transmis à l'eurodéputé.
Voilà, voilà. Ouais. Tiens, Ibouba, justement, là, les Républicains. Ouais, ça sent pas bon chez.
Non, pas du tout, exactement. Donc c'est vrai que ça sent pas du tout bon. Mais je crois qu'il faudra, sans doute, moi, à ma vision spontanée des choses, je crois bien que c'est surtout l'effet. Le Pen qui pose un tout petit peu ou qui plane un tout petit peu donc sur le sillage donc de tous ces gens aujourd'hui puisque si nous faisons peut-être sûrement une certaine nomenclature ou essayer de voir d'analyser souplement donc les choses, on voit que entre les Républicains donc qui sont avec les Républicains, l'extrême droite, je dirais bien que je vais loger donc chez les Républicains et différents un tout petit peu donc de RN, on sent que ça sent très mauvais, que la communication ne passait pas du tout et qu'ils n'ont rien fait pour essayer donc de homogéner, d'avoir un certain poids homogène pour essayer donc de pouvoir défendre le cause. Je crois que c'est le problème, le problème sine qua non, et aujourd'hui il va falloir corriger tout cela pour que les choses puissent se régler et que les choses puissent rentrer dans les clous, à ma vision spontanée des choses.
Et qu'est-ce qu'on fait des égarés, parce que c'est surtout ça moi la question que je pose.
Ils sont
ça
pas égarés.
C'est ceux des Républicains, vous savez, ces électeurs égarés qui sont indécis encore et qui se posent la question, qui se disent attendez, est-ce que je vais continuer de courir ou d'être sympathisant pour Éric Ciotti, ou est-ce que finalement c'est la même chose, donc le RN quitte à choisir la copie, allons chercher l'original.
Non, mais il y en a par résistance qui vont voter LR pour un peu les sauver, pour au moins qu'ils aient 5%. Il faut savoir qu'ils ont fait 8 la fois dernière, c'est ça ?
C'est ça.
8, ouais. Donc ils vont essayer de limiter la casse. Par instinct de résilience, l'électeur est LR. Va quand même voter LR. Après, les ceux qui se posaient des questions vont voter forcément Renew et d'autres qui vont basculer chez
et c'est
Bardella.
C'est que tu vas avoir une guerre interne quand t'as un Brice Hortefeux qui est un petit peu maltraité, quand t'as une Nadine Morano qui est écartée du sillage, ça va flinguer, ça va tirer fort.
C'est clair. Et puis, est-ce que ça correspond aux électeurs, franchement, à Brice Hortefeux aujourd'hui? On se pose pas la question.
C'est une bonne question.
On se pose pas la question. Mais
c'est une figure.
Il pèse à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est un microcosme aujourd'hui. Bah, s'ils veulent chercher
comme tous les partis,
des parts de marché.
Après, il aura quoi comme revenu après? Brice Hortefeux, il sait faire quoi après?
Moi, je tiens à dire aux électeurs des Républicains.
Bah oui.
Je parle aux démocrates qui ont la sensibilité, la fibre écolo. Ils sont les bienvenus à l'écologie au centre. On les accueille.
Ah, ça y est.
Avec
ça.
Il y avait la députée Renew qui était là, en plus, qui était chez
non,
vous.
Mais
et surtout, ça va être décompté. Attention, l'ARCOM va nous tomber dessus.
Voilà.
Attention. Non, mais c'est vrai. On va marquer juste une courte pause. 01-53-48-3000. Vous pouvez aussi réagir et venir nous, évidemment, commenter les sujets d'actualité. On reviendra, vous savez quoi, sur cette opération. L'opération XXL anti-drogue. Marseille est en train de perdre la guerre contre le trafic. La question qu'on se pose, elle est là. On parlera aussi de Aya Nakamura. Et la question que je pose aux auditeurs, est-ce qu'on est en train d'assister à un pays qui est de plus en plus raciste? Finalement, peut-être la question se pose, on pose la question. Quand on voit les sujets Aya Nakamura. A tout de suite, 01-53-48-3000 et à tout de suite après la pause.
Les informés reviennent dans un instant. Plus qu'une radio. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
10h42, allez, c'est parti avec Philippe Bouriaki, avec Augustin Varg, avec Ibouba et enfin avec Michael Sherman. Messieurs, alors je voudrais revenir, vous savez quoi, sur ce sujet délicat, c'est l'opération XXL anti-drogue. Alors, les trafics de drogue, on en parle, hein, vous savez que Éric Dupont-Moretti, lui, il a recadré les magistrats à Marseille. Moi, je voudrais m'intéresser à cette opération nette anti-drogue lancée depuis hier, avant-hier même.
Avant-hier.
Peut-être un bon week-end en tout cas. Est-ce que Marseille, je vous pose la question, elle n'est pas en train de perdre la guerre contre le trafic? Franchement.
Pas du tout.
187 morts. Je dis 187 morts.
Arrestations.
187 interpellations. Ouais. Je crois que c'est un gros coup. Mais par contre, je crois que ce problème, il faudra le traiter sous notre angle, à ma vision spontanée des choses.
C'est-à-dire
qu'aujourd'hui, est-ce que la répression peut toujours régler le problème de drogue dans les cités aujourd'hui? C'est une question à se poser. Et les politiques doivent se poser cette question-là.
Il faut trouver...
On peut trouver une autre solution que la répression. Il y a des pays qui sont... Écoutez-moi bien.
C'est pas du spectacle.
Il y a des pays qui sont à côté de nous, des pays voisins, qui ont trouvé des solutions.
Ça, c'est un autre débat. C'est l'aberration.
La prévention, il faut la faire plus jeune.
Mais vous savez, la répression, c'est pas ce qui règle tout. Si on part, si cette dité-là est foncée là-dessus, je crois que ça sera que du perdant-perdant et rien ne sera résolu. C'est ça le fun
problème. C'est très naïf.
Vous savez que le sujet,
à un moment donné, tout le monde veut la fermeté et quand elle est là, c'est de la répression. En fait, c'est ça.
Non, il faut faire la différence entre fermeté et répression. Il faut faire la différence entre fermeté et répression. Il faut être intelligent à un certain moment donné. Je ne dis pas que ce qu'ils font ne sont pas intelligents. Peut-être sûrement qu'ils sont en train de... Les policiers, ils sont fatigués. Les gens, ils sont fatigués. Mais écoutez, même
mais
le
gouvernement... Mais c'est un autre débat.
C'est à côté. Aujourd'hui, il faut canaliser tout cela et essayer de
voir... Alors, c'est quoi la solution,
Moi, ma vision spontanée des choses, c'est...
Mais
il faut discuter. Il faut essayer...
C'est son point de vue. Aujourd'hui, on peut trouver d'autres solutions
qui n'est pas seulement la répression. Je ne dis pas que la... Depuis combien de temps on est dans ce courant de la répression? Depuis combien d'années?
Calmons-nous.
Tant d'années pour essayer de régler ce problème.
Je ne suis pas d'accord.
Les flics qui sont fatigués. Les gens qui...
Et Bouba, c'est pas incompatible. On s'écarte du débat, messieurs. La question d'Adil, sur la question de place nette, c'est du marketing, c'est de la communication. Le trafic existe, la drogue existe dans les quartiers. Ils vont venir avec les caméras des forces de police démesurées pendant 2 jours. Que vont faire les trafiquants? Ils vont augmenter un petit peu les prix. Ils ne vont pas perdre de business. C'est la loi. C'est un business pour eux, comme un autre. C'est la loi du marché. Comme on a moins de stock parce qu'on n'a pas pu se faire réapprovisionner, si vous comprenez, on a des policiers qui sont dans la cité, on va augmenter les prix. Où vous allez aller, on va déplacer le point de deal à cet endroit. Et ils l'ont dit, ils ont interviewé des dealers sur France 2. Ils ont dit, vous savez, ça nous fait un peu de mal aujourd'hui, mais bon, on a déplacé à 30 km le point de deal. Et voilà, donc on comprend aussi la posture du gouvernement, qui est obligé de donner à manger à la population. Vous comprenez, on se charge du commerce de la drogue, mais c'est pas vrai. Et comme l'a dit notre ami, aujourd'hui, vous passez la frontière, il y a une aberration aussi sur d'autres sujets comme la prostitution. La drogue, elle existe partout, à toutes les frontières européennes, françaises. Donc voilà, il y a un gros problème, mais pour moi, c'est que du marketing, que de la communication. La drogue continuera d'arriver par bateau, en quantité. C'est pas parce qu'ils arrêtent 1000 kilos, une tonne.
Macron, il dit à Marseille, ce sera des opérations anti-drogue.
Ouais.
C'est quoi? C'est un coup de com'?
C'est un gros coup de com', mais malheureusement, il n'a pas le choix.
C'est de la com', il n'a pas le choix de faire de la com'. Après, on verra si au-delà de la com', il y a un peu de conviction. C'est-à-dire, ça veut dire que si les policiers font du terrain toute l'année. Ça serait ça l'idée. Ça serait que, en effet, que les policiers, que tous les services fiscaux et tout ça fassent du terrain et que ça soit pas sur juste pour 15 jours, 3 semaines, on revient.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas la justice derrière. C'est-à-dire que tous ces dealers, tous ces chauffeurs. Moi, je veux rendre hommage aux policiers. On leur demande d'exécuter des ordres. Ils y vont, ils arrêtent les dealers, ils arrêtent les choufs, ils arrêtent les trafiquants. Le surlendemain, il n'y a pas de place. Ils arrivent à Fresnes, les mecs sont libérés le jour même parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. Aujourd'hui, un juge.
Exactement.
Le problème, c'est que ça ravive des tensions quand même.
Bien sûr.
Le problème, c'est que le ministère de la Justice, ils ont, quand un juge y juge.
Bah, il y a des tensions justement entre les magistrats bah, oui. et.
Mais le problème, c'est que les juges jugent par rapport au nombre de places de prison. C'est-à-dire que s'il y a trois places à prendre et qu'ils ont six accusés devant eux et qui sont de la même peine équivalente, ils peuvent pas les loger les six. C'est devenu un hôtel les prisons. Donc aujourd'hui, s'ils ont que trois places, que seulement trois iront en prison. Donc il y a une aberration du système global où la police et la justice ne sont pas main dans la main et ça peut pas marcher. Ça peut
il y a
pas
des tensions.
Enfin là, il y a des comparutions tensions. Immédiates.
Ouais.
On peut en trouver de la place, je pense.
Augustin Vache.
Pour ces gens-là, on peut en trouver, je pense. Surtout s'il y a des gros machins.
Il manque 15 000 places.
Il manque même 50 000 apparemment.
Oui, voilà. Donc,
mais les mairies veulent pas construire. Donc, enfin, en tout cas, l'État par les mairies veulent pas construire. Mais je pense que ça sera quand même un effet, quand même. Même si c'est de la com, il y aura quand même un effet. Ouais. Certes, ça sera pas très grand.
Philippe,
écoute, on parle en vérité. Il y a un sujet qui a pas été abordé, c'est les moyens. Quand on voit ce que génère le trafic de stupes, l'État ne met pas les mêmes moyens en face pour pouvoir lutter contre. Je suis désolé, il manque des douaniers. Il faut des coopérations entre les services parce que sinon, ils se tirent dans les pattes et c'est à celui qui fera la meilleure affaire pour être le mieux noté et être le mieux doté. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Autre chose, effectivement, il faut regarder ce qui a été fait dans plein de pays. Prenons un exemple, le pays le plus puritain au monde qui est censé être les États-Unis d'Amérique. Ils ont légalisé, et même, y compris de manière récréative.
Exactement.
Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a 3 ans au Nevada, ils ont remboursé des impôts aux gens.
Sauf que le ministre de l'Intérieur, il a dit au micro, donc en exclusivité sur BFM, niette.
D'ailleurs, bravo Adil pour l'interview.
Merci beaucoup.
Clochette, ça a fait jaser. Il y a des jaloux, ça parle un petit peu, Adil.
C'est ça.
Ah, t'es dans l'œil du cyclone, donc vraiment félicitations. Non, mais le truc, c'est qu'il faut. Enfin, faire un vrai débat national ou un Grenelle à ce sujet avec des parents, avec des consommateurs.
Ils n'ont pas de Grenelle, ne parlez pas. Philippe Ladjiboyaki, ne parlez pas dans le vent.
Il y a un problème insoluble. C'est pourquoi je vous parle de problème de répression. On ne peut pas régler cela comme ça. Il n'y a pas que
vous
la répression qui
règle quand il dit, y a pas que la
vous venez d'entendre la thèse de Philippe, ce qu'il a dit, c'est avéré. C'est une des solutions déjà. Mais il faut discuter. Il faut essayer de trouver des solutions.
C'est la légalisation.
Ce sont les enfants.
L'anti-répression, c'est la légalisation dans ces cas-là.
Non, la légalisation, s'ils ne veulent pas légaliser, il y a des pays qui ont légalisé.
Oui.
On a vu les conséquences. Oui. Ça marche bien. Maintenant, est-ce qu'il
faut légaliser
Bien sûr que ça marche bien.
Mais après, on légalise un truc, on va toujours plus loin.
Faut pas avoir peur des mots. Écoutez.
Non, mais faut pas oublier les conséquences aujourd'hui de la drogue sur la jeunesse. Faut revenir à un débat serein aussi.
On consomme le plus.
Attendez. Je crois qu'il faut faire une photo.
Plus on interdit, plus on.
Il y a la répression. Et pourtant, on consomme de plus en plus. Donc, c'est qu'il y a, ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on peut s'asseoir
poser la question de la légalisation,
de la légalisation ou de l'encadrement.
Moi, je suis d'accord pour l'encadrement.
Vraiment. Et puis, si demain, honnêtement, je paye la moitié de mes impôts parce que
et puis on tarit les taxes là-dessus. Et puis on tarit les trafics un peu avec ça aussi, je pense.
Non, et
puis
surtout, c'est un mot qui est pas très propre à entendre. La qualité de la substance qui se trouve sur le marché aujourd'hui, quand c'est coupé sur coupé sur coupé. Il y a un problème sanitaire qui se pose sur le diamant.
Et puis il y a une hypocrisie aussi, c'est qu'il y a des consommateurs partout dans toutes les classes sociales. Comme aujourd'hui, moi je suis entouré de personnes qui consomment dans tous les.
Alors au conseil municipal de Charenton, comment ça s'est passé là?
J'ai entendu dire que.
Je sais pas au conseil municipal de Charenton, mais dans toutes les classes sociales, ça consomme en France et voilà, faut pas se mentir.
Effectivement, c'est aussi une réalité.
Même chez les politiques.
Et Augustin tout à l'heure le disait, effectivement, c'est en forte augmentation.
Surtout chez les politiques.
C'est surtout ça. 10h51 précisément. Vous savez quoi, je voudrais parler quand même de ce sujet, c'est Aya Nakamura au JO. Je voudrais qu'on en reparle, puisqu'on en a parlé encore la semaine dernière, mais surtout cela, ça continue ce bal raciste quand même organisé devant le siège du Rassemblement National à Paris. Qu'est-ce qui se passe là? Antiraciste, effectivement.
Alors, c'est la course des propos les plus dégueulasses envers cette chanteuse.
En fait, c'est même pas au-delà, c'est plus Aya Nakamura là. Là, on est en train de cliver d'un côté, disons-le clairement.
De toute façon,
les étrangers et de l'autre.
Ouais, mais ça, c'est une poignée qui veulent racialiser le débat.
Ouais, mais cette poignée-là, c'est qui?
C'est celle qu'on entend le plus.
En fait, il faut être clair dans le micro.
Mais c'est ce qu'on entend le plus, et c'est ça le poison. C'est ce qui
les gens modérés font pas de buzz.
C'est ce qu'il faut refuser. Exactement, c'est ce qu'il faut refuser. Il faudra
après le débat. C'est ça. Elle va chanter Edith Piaf. Elle va pas chanter machin.
Ben c'est dommage, il faudrait qu'elle chante aussi ses chansons à elle. On va pas se laisser dicter.
C'est l'artiste.
Moi, ce qui m'intéresse, je vous dis, le sujet qui est intéressant, c'est le racisme là. Voilà.
Bah, c'est simple, c'est juste parce qu'elle est noire. Mais, non, mais il faut aller à l'essentiel. Ah, faut dire les choses.
Elle est noire.
C'est uniquement parce qu'elle est noire qu'elle subit cette attaque. Mais c'est tout. Pour quelle autre raison? C'est l'artiste la plus écoutée.
La plus streamée, ouais.
La plus streamée, elle a dépassé 1 milliard de vues. C'est juste bah, logique en fait que ça soit elle qui représente. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas c'est légitime. Elle a toute sa légitimité juste en termes d'audience pourquoi qu'elle chante. Et pourquoi cet acharnement sur elle? Mais c'est juste parce qu'elle est noire. Faut arrêter de passer par.
C'est, vous êtes convaincu de ça? C'est vrai.
Ah, parce qu'elle est noire. Pour quelle autre raison?
Je sais pas. Comme si c'était. J'ai pas de jugement à porter là-dessus. Je ne suis pas dans la tête des gens. Mais c'est ce que l'on croit. Moi aujourd'hui, quand je vois cette situation-là, franchement, j'ai honte. Parce que je me dis, moi qui suis français aussi, mais comment est-ce que je vais devenir Dama? Mais c'est un problème en fait, c'est un problème. Il faudra régler ce problème-là, puisque ça apportera des dérives. Et franchement, c'est pas ce qu'on souhaite pour ce peuple-là. Et ça ne fait que diviser le peuple français.
Par contre, diviser le peuple français.
Non, mais ce qui est très décevant, c'est qu'on n'entend pas les sportifs. Moi, je suis désolé. Si on enlève nos sportifs dits d'origine ultramarins, on n'a plus de médailles. Pourtant, parmi la natation, on n'a plus aucune médaille.
Exactement.
Clairement, on aura la natation là. Moi,
c'est pas vous ce que dit Philippe, ouais.
Hein,
c'est vrai. Non, mais c'est un sportif, on les entend plus.
C'est quoi un sportif? C'est que c'est un étendard. Et il faut aussi qu'ils s'engagent. Il faut aussi qu'on les entende. Ils viennent, ils prennent.
Surtout qu'elle est française à part entière et non pas entièrement à part.
Elle est française.
Elle est française. Voilà, il y a pas un sujet. Après, la légitimité, c'est qu'elle chante Edith Piaf pour certaines personnes racisées.
C'est ses propres morceaux en plus.
Et donc, pour eux, c'est pas légitime qu'une noire.
Parce que Beyoncé aux États-Unis au Super Bowl qui chante, ça pose aucun problème.
En France, on a ce problème-là. Et le problème, il devient de plus en plus lancinant.
Je vais faire même un duo avec Chepral, tiens.
Il faut que ça s'arrête à un certain moment.
Avec Michel Sardou pour rassurer les autres.
Ouais, exactement. Allez, merci, messieurs. Merci à vous tous. C'est pas mal, effectivement. Michael Sherman, l'élu de Charenton-le-Pont, merci, au plaisir.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
Bah voilà.
Et Bouba, à très bientôt.
À très bientôt, Adil.
Augustin Vargas, au plaisir également. Philippe Nadiboyaku, le conseiller régional, le co-porte-parole de Écologie au Centre. À bientôt.
C'est ça. Futur maire d'Orly, comme Michel. Futur maire d'Orly. Michel, futur maire de Charenton. Ouais, t'as deux futurs maires là, potentiellement. On va être modeste.
Il est visionnaire.
Vous ne nous oublierez pas?
Mais jamais de la vie.
On ne oubliera pas.
Jamais?
Ouais, jamais.
Bon, c'est ça, ouais, tu verras après. Ouais,
on verra quand ils seront élus.
Je suis conseiller régional.
Allô, monsieur Michael, Philippe?
Oui,
plus de messages, plus de retours.
Pas du tout.
On sera là.
Sur ton plateau, j'avais tenu la parole de reverser mes indemnités et d'être transparent. Oui, c'est vrai. Je suis un homme de parole.
C'est vrai. Et c'est grâce à Philippe que je suis là.
C'est grâce à Philippe.
C'est Philippe qui m'a.
C'est grâce à toi. C'est grâce à toi.
C'est fou. Hein.
Merci à Tarek et à demain avec autant de plaisir. Les programmes continuent et on ne lâche rien. Ciao.
Merci beaucoup.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.